Le gouvernement vient de prendre une série de décisions portant allègement des mesures de lutte contre la COVID-19 en RDC. Il s'agit de la levée du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf dans les provinces sous état de siège. La suppression du test COVID à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné, ainsi que la suppression du test COVID pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays. C'est le porte-parole du gouvernement qui a annoncé ces décisions hier lundi 14 février à la télévision nationale à l'issue d'une réunion du comité multisectoriel des luttes contre la COVID-19 présidée par le chef de l'État. Quelle lecture faire de ces décisions? Ne risque-t-elle pas de contribuer davantage à la propagation de la maladie? Nous en parlons ce soir avec le docteur Dan Bomboko, conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Docteur Dan Bomboko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Docteur Baté Njoloko, député national, élu de Pangui au Maniema, il est ancien directeur général des luttes contre la maladie au ministère de la Santé publique. Il a été impliqué dans la gestion de plusieurs épidémies en RDC, notamment Ebola. Docteur Njoloko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le pasteur Néhémie Nkoussou, membre de la société civile santé du Congo central. Pasteur Néhémie Nkoussou, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre à Kinshasa sous la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Vous le savez, le couvre-feu est levé en République démocratique du Congo, sauf dans les deux provinces sous état de siège. Le gouvernement a également annoncé la suppression du test COVID-19 à l'entrée du territoire national pour tous les voyageurs complètement vaccinés. La décision concerne aussi les voyageurs complètement vaccinés pour les vols domestiques. Ils ne seront plus soumis à un test obligatoire. L'annonce a été faite hier à la RTNC par le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, à la suite de la réunion présidée par Félix Tshisekedi avec la task force présidentielle de la lutte contre la COVID-19. Je vous propose de suivre un extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.
Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests COVID-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression de tests COVID-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays pour les vols domestiques donc. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo. Surtout avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application.
Docteur Dan Bomboko, je rappelle que vous êtes conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. Dites-nous, qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à prendre ces décisions?
Bon, ces décisions font suite aux recommandations de la santé publique parce que nous avons quand même consolidé un allègement et une baisse de la courbe de la contagiosité de la maladie. Et nous pouvons dire que ces mesures d'assouplissement ont été prises parce que cela témoigne de nos efforts et que nous devons ajuster quand même les mesures de surveillance à la réalité épidémiologique qui est constatée dans le moment.
Pourquoi cette fois-ci le gouvernement a décidé d'élever le couvre-feu parce que il y a baisse sensible des cas alors que il y a quelque temps aussi on a observé ce phénomène mais le gouvernement n'avait pas pris ce genre de décision.
Oui, madame.
Est-ce que cette fois-ci on peut se dire c'est vrai que c'est pas la fin de la pandémie mais nous tendons vers la fin de la pandémie.
En fait, madame, il faut comprendre que il fallait avant de procéder à ces mesures consolider d'abord la baisse de la contagiosité et observer un plateau bas au niveau du taux d'infection et surtout du taux d'incidence. Et aussi regarder la pression que nous subissons au niveau de nos hôpitaux qui a considérablement baissé parce que nous avons quasiment presque plus des lits Covid occupés dans nos services d'urgence et de réanimation. Mais je tiens à rappeler que la situation reste encore fragile. C'est pourquoi j'appelle encore tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait de se faire vacciner ou de faire leur dose de rappel pour que l'on puisse encore davantage consolider ses acquis et que l'on puisse réduire la propagation de nouveaux variants.
En parlant de la vaccination, Dr Dan Mboumboko, le gouvernement a annoncé la suppression du test COVID à l'entrée du territoire national pour tous les voyageurs complètement vaccinés. On sait que lorsqu'on est vacciné, on peut toujours être porteur du virus de la COVID-19 et contaminer les autres. Vous pensez que c'était une bonne décision de supprimer le test COVID à l'entrée du pays ou lorsqu'on voyage en province?
Oui, parce que les personnes qui sont complètement vaccinées, ce sont des personnes qui peuvent, c'est vrai, encore attraper la maladie, mais ce sont des personnes qui ont quand même acquis une immunité qui fait en sorte que la transmission n'est plus, au même niveau que les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. C'est comme ça que dans un souci aussi de faire un équilibre entre la situation épidémiologique, les risques de contagiosité, mais aussi la situation économique au niveau du pays, nous avons fait ces recommandations et le gouvernement en a tenu compte.
Vous allez me corriger si je me trompe, docteur Dan Mboumboko. On a vu, on a suivi à la télé, dans les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vaccinées étaient à la base de la grande contamination en Europe.
Bon, vous savez, il est très difficile de pouvoir mettre l'accent et savoir exactement qui sont les personnes qui sont les contaminants, puisque les clusters des contaminations se faisant assez rapidement, surtout dans les cas de la COVID, on ne peut pas indexer un groupe de population par rapport à un autre. Mais ce que je peux vous dire, qu'il est scientifiquement prouvé que la vaccination permet, le vaccin permet d'augmenter l'immunité contre la maladie, donc in fine, de réduire la transmission. Donc en cassant la chaîne de transmission, c'est sûr que nous arrivons aussi à ralentir la propagation de la maladie. Et les personnes qui sont doublement vaccinées, ce sont des personnes qui pourront permettre à ce que nous puissions atteindre l'immunité collective et que nous puissions vivre avec la maladie sans que cela ne soit un fléau ou un potentiel danger pour la santé publique.
Alors la suppression du test COVID pour tous les voyageurs complètement vaccinés, est-ce une façon de pousser la population à se faire vacciner, docteur Dan Mboumboko? Parce qu'on sait que la RDC figure parmi les pays les moins vaccinés du monde.
Bon, c'est d'abord une mesure pour permettre et favoriser de manière graduelle la reprise des activités économiques, mais aussi des activités culturelles, mais aussi il faut penser à la santé mentale des Congolais qui ont subi pendant plusieurs années, ça fait quand même plusieurs mois, un mode de vie qui était assez restreint et assez coercitif. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui n'ont pas été encore vaccinés, si c'est un incitatif pour qu'ils puissent aller se faire vacciner, nous pouvons qu'encourager cela.
Pourquoi les deux provinces sous état de siège ne sont pas concernées par ces mesures?
Parce que là, il s'agit d'un problème de sécurité d'État. Donc le couvre-feu est levé dans toute l'étendue du territoire national, sauf dans les deux régions, pour des questions de sécurité d'État. Mais on sait qu'il s'agit des autres allègements par rapport aux mesures qui vise à réduire un peu la pression au niveau de la population. Oui, effectivement, c'est qu'on fait ces provinces et des provinces sont aussi concernées.
Alors, on annonce une probable cinquième vague d'ici avril. Comment faire pour l'éviter, docteur Dan Mboumboko?
Bon, j'ai dit qu'il faut quand même être très, très prudent puisque la situation reste encore fragile, comme je vous ai dit. Donc, ces mesures que nous avons prises, c'est parce que nous avons consolidé une baisse du taux d'incidence. Mais nous devons toujours veiller à ce que nous puissions garder les bonnes pratiques que nous avons acquises pendant les périodes où la maladie faisait rage, notamment le lavage des mains, notamment les désinfections, notamment tout ce qui est en rapport avec l'hygiène au niveau des mains et aussi par rapport à la distanciation sociale et au regroupement, et aussi tout ce qui est lié directement à la vaccination, puisque c'est aussi là une des clés pour pouvoir diminuer la contagiosité. Je pense qu'en gardant ces bonnes pratiques, nous pouvons continuer à ralentir la propagation de la maladie, et effectivement, nous éviterons cette cinquième vague qui nous inquiète au plus haut point.
Docteur Baté Njoloko, député national élu de Pangui au Maniema, vous êtes ancien directeur général de lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Vous avez été impliqué dans la gestion de plusieurs épidémies en RDC, notamment Ebola. Docteur Njoloko, quelle lecture vous faites de ces décisions prises par le gouvernement?
Oui, madame, je commence d'abord par présenter toutes mes compassions à toutes les familles qui ont perdu les leurs de suite de cette pandémie. Elles sont nombreuses, ces familles-là. Et j'enchaîne à féliciter les collègues médecins, infirmiers et autres urgentistes qui ont beaucoup travaillé pour sauver les vies. Et dans les conditions les plus difficiles, nous avons vu dans la rue, à l'Assemblée, venir réclamer les paiements. C'est-à-dire, ils ont travaillé des mois et des mois sans être payés. Une fois de plus, nous les félicitons et nous les encourageons. C'est la profession que nous avions choisie de soigner, mais non sans compensation et récompense du pouvoir public. Mais ma lecture générale, c'est que ces décisions me donnent l'impression de la précipitation. Et pourquoi je l'ai dit, les éléments sont vraiment nombreux. D'abord, une pareille décision ne peut pas surprendre la population de façon générale, puisqu'il devait y avoir des actions qui devaient être menées à temps sur base d'une feuille de route et qu'on sache qu'à un tel moment, ceci devrait arriver. Ce que je veux dire par là, il y a des principes simples de santé publique. Si vous êtes devant une épidémie et que pour lutter contre cette épidémie, comme dans nombreuses épidémies d'ailleurs, c'est des méthodes et des approches combinées. Et quand vous avez plusieurs approches combinées, comme pour le cas de la pandémie de Covid, du moment que vous supprimez les tests, ça signifie que vous devez avoir renforcé une autre approche. Et si vous n'avez pas à renforcer notre approche, ça signifie que tout va rester au même niveau. Et moi, pour moi, c'est ça la précipitation. Qu'est-ce que nous avons fait pour renforcer, par exemple, les ports de masques, pour lever les couvre-feux, par exemple? Qu'est-ce que nous avons fait pour que dans les boîtes de nuit, dans les églises et partout ailleurs, que toutes ces veillées-là se passent dans les conditions qui protègent les citoyens? Rien n'a été dit et visiblement rien n'a été fait en termes de renforcement, même pas de la communication pour le changement des comportements.
La sensibilisation va se poursuivre.
Oui, la question ce n'est pas de poursuivre. Quand vous supprimez une approche, il faut intensifier l'autre. Ce n'est pas que tout doit rester au même niveau, puisqu'il faut qu'il y ait des mesures compensatoires. C'est cela la question que moi je me pose. Et en plus, du moment que nous craignons la cinquième vague, une fois de plus, on doit avoir des éléments les plus solides pour prendre de telles mesures. Et ne fût-ce que pour revenir, les confrères venaient de le dire là, c'est sur les tests pour les voyageurs complètement vaccinés. C'est clair qu'une personne vaccinée, elle reste et peut être contaminée et contaminante. Et en plus, il y a d'autres études qui ont montré que le lieu de grande contamination, c'est dans les avions, et surtout les longs courriers. Et le cas ici, c'est de se dire, on va avoir des gens qui sont contaminés, vaccinés, et qui sont contaminantes. Qu'est-ce que nous faisons de ces gens-là? Certes, il y a des pays qui ont pris des mesures du genre, faire des tests aléatoires obligatoires aux voyageurs, mais ça n'a pas été dit, c'est-à-dire on laisse libre cours. Et pourquoi encore nous émettons des réserves par rapport à ça? C'est la confusion que l'on met entre le couvre-feu et l'état d'urgence. Les couvre-feux, il y a eu des mesures réglementaires et même législatives qui ont été prises, et l'état de siège, pareil. Mais comment on va mêler les deux? Nous pensons qu'il n'y a pas à mêler. S'il y a couvre-feu, le couvre-feu, c'est tout à fait autre chose. C'est vrai que le couvre-feu peut faire partie de l'état d'urgence, et c'est le cas. Et ça fait encore la confusion dans les chefs des citoyens. De se dire, voilà, moi, je sais plus, nous sommes à Goma ici, qu'on n'a pas levé le couvre-feu. Non. L'état des sièges lui-même a des mesures beaucoup plus contraignantes qui peuvent bien être qui pouvait présenter des avantages dans la lutte contre la pandémie. Voilà mes premiers, ma première lecture de cela, et sinon nous avons d'autres commentaires par la suite.
Docteur Njoloko, la décision concernant la suppression des tests Covid pour les voyageurs complètement vaccinés, est-ce que vous pensez que ça va pousser la population à se faire vacciner pour éviter de chaque fois débourser 30$, 40$ pour le test Covid? Est-ce que ça va les inciter à aller se faire vacciner?
Ça peut les inciter, oui et non. C'est vrai que pour les gens beaucoup plus consciencieux, qui veulent protéger leur propre santé et la santé des autres, ça va les pousser à le faire. Et d'ailleurs, les personnes les plus conscientes et consciencieuses n'attendent même pas cela. Ils y vont elles-mêmes demander se faire vacciner. On en a nombreux, nous sommes nombreux là. Mais par contre, l'effet de supprimer, de pousser les gens à voyager et de prouver qu'on a été doublement vacciné, mais ça peut aussi pousser les gens à tricher et acheter des faux carnets de vaccination.
Ça circule déjà, semble-t-il.
On a vu ça. Voilà, c'est cela ma réserve par rapport à ça, une fois de plus.
Malgré ce faible taux de couverture vaccinale, on a plutôt l'impression que la RDC est quand même épargnée par la COVID-19.
On a la même impression, mais madame, moi, comme homme d'État, la mort d'un seul citoyen doit ébranler la nation. On ne peut pas s'accommoder, s'habituer à ce que les Congolais meurent en masse et qu'on devienne insensible. Pour moi, c'est un seul Congolais. Est-ce que nous protégeons tous les Congolais? C'est cela la question. Si nous protégeons suffisamment tous les Congolais, ok. Mais si la mesure peut exposer un Congolais et qu'il meurt du fait de cette mesure, moi je pense que ça n'a pas sa place. Voilà ma lecture de cela, madame.
Vous estimez que ces décisions ont été prises dans la précipitation. Vous auriez souhaité, docteur, que, par exemple, le couvre-feu ne soit pas levé en ce moment, que le gouvernement attende encore un peu?
Non, effectivement, madame, le couvre-feu, là, d'abord, est extrêmement inefficace. Pour moi, il fallait l'annuler depuis longtemps. Mais on ne peut pas supprimer le couvre-feu pour le supprimer. Moi, j'étais parmi les gens, et je suis parmi les gens, qui n'ont rien trouvé. Moi, j'ai circulé dans cette ville la nuit, juste pour me rendre compte un peu comment les services fonctionnent. Et là, c'est dans mon œil de médecin et de député, mais il n'y a rien, ça n'apporte rien, c'est la tracasserie. C'est-à-dire, une fois de plus, on raquette la population, et on a racketté, on continue à racketter la population avec ce couvre-feu. Mais, une fois de plus, quand même que c'est là ma position, mais est-ce qu'on devait lever, avec les mots, j'ai suivi les porte-parole du gouvernement, lever immédiate, mais c'est pas possible. On doit nous donner une feuille de route d'une semaine, deux semaines, même les policiers qui font le couvre-feu. Mais ils avaient été prévenus que dans une semaine, il n'y aura plus ça. Et leur commandement et tout ça s'arrange pour déjà faire une autre feuille de route, de déploiement, des éléments, dans ceci. Mais c'est pas possible. On ne peut pas, à mon avis.
Pasteur Néhémie Nkoussou, membre de la Société civile santé du Congo central, comment vous avez accueilli ces décisions prises par le gouvernement qui allège les mesures de lutte contre la COVID-19?
Merci beaucoup, madame. En fait, cette levée de mesures, toutes ces mesures qui ont été prises, nous les attendions depuis longtemps parce que vous savez que la COVID-19 est venue appauvrir la population. Et beaucoup de gens ont été limités dans leurs mouvements, dans leurs activités, ainsi de suite. Donc tout le monde était en train de se dire, mais à quand la levée de ces mesures? Parce que ça fait longtemps, ainsi de suite là. Et que déjà nous avons remarqué, dans différents milieux, par exemple chez nous au Congo central, qu'il y a eu une baisse sensible des cas de contamination. Et c'est vrai que le respect des mesures barrières pose problème dans certains milieux, même dans les grandes villes où nous sommes, comme Matadi et autres. Il y en a qui le respectent, il y en a qui ne le respectent pas. Mais du moins, du coup, à chaud, nous tenons à saluer ces mesures parce que ça vient aider la population pour qu'elle puisse quand même accéder librement à ces différentes activités.
Vous saluez ces mesures du gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la suppression, par exemple, des tests pour les voyageurs complètement vaccinés?
Bon, la suppression des tests, bon, la problématique de ces tests, c'est aussi à bien voir avec les deux yeux, parce que nous qui voyageons, nous remarquons quand même beaucoup de choses. Nous avons eu à remarquer beaucoup de choses. Il y a aussi des irrégularités dans certains coins. Une fois, on se retrouvait quelque part dans un aéroport, on a attrapé quelqu'un et qui avait un faux document de test. Vous voyez, on a essayé de renforcer un peu là. Il a présenté un document sur lequel il était testé, alors que c'était du copier-coller, c'était en fait quelque chose qui n'était pas bien. Il ne s'était pas fait tester, mais il a fait faire un document, un faux document. Vous voyez. Donc tout ça, c'est aussi à bien voir. Mais du moins, la suppression des tests, c'est une évidence, puisque, vous voyez, ce test-là, c'est aussi de l'argent. Vous voyagez, il faut payer 30 dollars, 35 dollars, vous payez, vous dès que vous dépassez une semaine, il faut encore revoir le test. Ça encore alourdit les dépenses dans l'économie des Congolais. Du moins, nous saluons cette mesure-là.
Vous avez suivi Dr Baté Njoloko qui estime que supprimer les tests, ok, mais il fallait renforcer par une autre approche pour le respect des mesures barrières afin d'éviter la contamination.
Effectivement, il a raison, je l'ai suivi attentivement. Il a parfaitement raison. Mais c'est la tâche de nous tous, vous voyez, partout où nous sommes. Il est un élu, il est député, il est médecin, donc il a une partie de pouvoir, c'est un leader d'opinion. Moi, je suis pasteur, il y a aussi des chefs coutumiers, il y a des responsables de différentes structures. C'est à nous tous, ce n'est pas à donner seulement au gouvernement, mais c'est à nous tous maintenant à renforcer cette sensibilisation dans différents milieux où nous sommes, dans les quartiers, dans les maisons,
dans les églises, malheureusement. Les pasteurs ne respectent pas la décision du gouvernement qui demande à ce que les églises ne reçoivent que 50% de la capacité d'accueil.
Nous avons à respecter parce que, vous voyez, déjà au début, on nous avait demandé de respecter toutes ces mesures-là. Nous l'avons fait dès le début. Il y en a qui célébraient un seul culte, mais qui ont éclaté. Il y en a qui commençaient à célébrer 2, 3, 4 cultes le dimanche, vous voyez. Et même la semaine, entrer dans les églises, parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes des leaders d'opinion. Nous veillons non seulement sur la santé spirituelle de la population que nous encadrons dans les églises, mais aussi sur la santé physique, parce que si nous recevons des fidèles qui sont malades ou qui contactent la maladie, c'est encore une charge pour nous, parce que nous devons commencer à beaucoup prier pour eux, et si l'un d'entre eux meurt, c'est une perte tant pour la société que pour l'église. Donc la majorité des pasteurs, des prêtres, donc des clergés, je dirais, en fait, sont des gens qui respectent les prescrits de la loi et aussi qui veulent à ce que le peuple qu'ils encadrent soit en bonne santé. C'est vrai qu'il y a des dérapages, il y en a qui émargent, c'est vrai, mais je crois qu'ils sont minoritaires.
Alors, il y a un auditeur qui nous écrit, il s'appelle Josué Hassani, qui pense que supprimer le test COVID uniquement pour les voyageurs complètement vaccinés, c'est en quelque sorte rendre obligatoire la vaccination.
Oui, madame, vous savez, la vaccination, nous la connaissons depuis longtemps, ce n'est pas seulement pour la COVID-19. Depuis que nous avons été des enfants, il y a des pathologies pour lesquelles nous avons été vaccinés. Donc celui qui comprend le bien fondé de la vaccination ne doit pas hésiter pour se faire vacciner, parce que c'est pour son bien fondé, pour qu'il puisse avoir une certaine immunité dans son organisme. Voilà un peu, madame.
Est-ce que vous sensibilisez aussi vos fidèles dans les églises pour qu'ils aillent se faire vacciner?
L'Église est un partenaire obligatoire de l'État. Quand le gouvernement donne des directives, d'ailleurs de temps en temps, nous, les hommes de Dieu, on nous réunit par les autorités pour essayer de voir comment régler les choses. Nous sommes avec les chefs de quartier, avec les bourgmestres, avec nos autorités politiques et administratives. Nous recevons des instructions de l'État et nous les relayons auprès des fidèles. Nous insistons dans l'Église, nous disposons toujours d'un espace pendant les annonces où nous communiquons auprès des fidèles le respect de ces mesures barrières.
Docteur Dan Bomboko, les auditeurs sont très nombreux à nous appeler pour donner aussi leur point de vue concernant les sujets de ce soir. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasaï central.
C'est Martinez Kouyama, parti de Kananga. C'est une bonne initiative prise par le gouvernement, d'autant plus que tout le monde s'est demandé la destination de ces fonds. Par contre, il se peut qu'il y a certaines provinces qui n'ont jamais eu les vaccins. Et de ce fait, ça serait une autre manière de ne pas lutter adéquatement contre le COVID-19, mais plutôt en faire une propagande de ce dernier.
Docteur, comment vous répondez à cet auditeur qui pense que il y a des provinces qui n'ont jamais reçu des vaccins contre la COVID? Il estime que ça sera une façon plutôt de propager cette maladie dans ces provinces-là.
Oui, alors je pense que la distribution des vaccins a été faite proportionnellement au niveau d'incidence et de la prévalence de la maladie dans les provinces. Donc il est évident que pour les provinces qui avaient déjà un faible taux de prévalence de la maladie, les efforts n'ont pas été faits à ce niveau-là, puisque il n'y avait pas tant à craindre au niveau de ces provinces. Mais il faut comprendre, hein, je comprends et j'entends la population. La levée de ces mesures est en parfaite harmonie avec les attentes de la population, puisque effectivement on devait arriver à un certain moment. Et même l'honorable député qui nous parle de la feuille de route, effectivement il fallait y penser, c'est vrai, mais nous avons quand même aussi un devoir à faire, c'est de faire en sorte que nous puissions pas continuellement et pour rien exercer une pression au niveau de la population, alors que les données scientifiques démontrent bien que la courbe de la contagiosité est très bas et que nous observons depuis un bon moment un plateau. Donc cela n'était qu'une suite logique par rapport aux données de la surveillance épidémiologique.
Docteur Njoloko a posé aussi un autre problème, hein, docteur Dan Bomboko, celui de la suppression des tests. Est-ce qu'il y a une autre approche? Vous supprimez les tests. De l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez prévu des mécanismes pour que les gens respectent vraiment les gestes barrières?
Oui, madame. Vous savez, nous sommes en tout cas un pays avec des ministères et des services et des directions qui travaillent. Alors, il y a des partenariats en cours avec plusieurs initiatives technologiques pour créer des systèmes de surveillance au niveau de nos frontières. Je peux par exemple vous dire, vous citer avec l'OCEAC et les pays, les autres pays d'Afrique qui sont nos voisins, donc les pays d'Afrique centrale, nous sommes en train de travailler pour pouvoir mettre en place une gestion commune de nos frontières par un système commun qui est un système très développé et une nouvelle technologie qui nous permettra de continuer quand même à faire une bonne surveillance, même si nous imposons plus les vaccins au niveau des frontières et de nos aéroports. Donc nous continuons à travailler là-dessus, nous continuons à envisager des solutions innovantes aussi pour toujours dans la perspective de protéger la population de manière générale.
Docteur Njoloko, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Arou.
C'est Tony Benjamin depuis Ariora, un territoire d'Arou. On devait élever cette mesure. En effet, elle n'a rien changé de ce qui était. Les cas d'infection n'ont cessé d'augmenter malgré toutes ces mesures. Nous doutons encore de l'existence réelle de cette maladie sur le territoire congolais. Le vrai corona est terminé. Actuellement, ce sont des chiffres fabriqués.
Docteur Njoloko, il y a des Congolais qui pensent que cette maladie est quelque chose de fabriqué, qui doutent encore jusqu'à ce jour de l'existence du coronavirus.
Oui, madame, il y aura toujours des gens qui douteront. Nous avons commencé avec la lutte contre le VIH-Sida dans ce pays. Et une grande partie de la population doutait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y en a encore, peut-être moins d'1%, mais il y en aura toujours. Mais nous, comme responsables, particulièrement ceux qui dirigent le ministère de la Santé, c'est de regarder le grand nombre. Je suis convaincu quand même que de plus en plus, beaucoup de Congolais ont des preuves, malheureusement, du fait d'avoir perdu un ami, un cousin, un proche, que la maladie existe. Et moi, je confirme que cette maladie-là, c'est une entité nosocomiale maintenant bien identifiée. Quand même que maintenant, il y a autour de ça les paramètres que nous ne maîtrisons pas encore très très bien, même les vaccins, bon, c'est encore un peu tous au stade expérimental, quand même que l'efficacité maintenant est connue. Voilà un peu à mon avis. Nous n'avons qu'à demander à notre ami de Arioara de nous faire confiance et de faire confiance aux autorités du pays et aux scientifiques surtout que cette maladie-là, elle est vraiment là.
C'est aussi le rôle de vous, députés, de sensibiliser vos électeurs.
Alors, moi, je l'ai fait, madame. Et là, peut-être on va en parler à la fin de l'émission. Ceux qui sont dans l'action estime qu'un député national ou provincial, c'est un leader d'opinion, il devait les approcher. Moi, particulièrement, du fait de mes anciennes fonctions, je n'ai jamais eu même un prospectus. Je revenais de vacances parlementaires l'année passée, je n'avais rien. Je n'avais pas quand même imprimé les prospectus. C'est des choses, c'est des papiers qu'on devait avoir, qu'on devait distribuer aux députés. Nombreux d'entre nous sommes en vacances parlementaires et sont déjà approchés. C'est aussi cela. Mais sinon, je sais qu'il y a beaucoup de collègues députés non médecins qui sont réceptifs, puisque nous avons perdu de chair, nous avons perdu des collègues députés. Et là, c'est indéniable. Et des personnes qu'on aimait bien, avec qui on a bien travaillé comme député. Voilà un peu.
Et alors madame, docteur Tcholoko, sous d'autres cieux, on commence déjà à parler de la fin de cette pandémie en tant que scientifique. Hein, au vu de l'évolution de la situation, vous pensez aussi que le monde est en train de tendre vers la fin de cette pandémie qui a coûté la vie à beaucoup de gens.
Oui, tout à fait, madame. On ne va pas revenir sur l'histoire de la médecine, mais il n'y a pas eu une épidémie qui a décimé toute la population planétaire. C'est-à-dire que le corps humain a des mécanismes qui est plus le virus se transmet d'une personne à une autre, de trouver sa virulence et s'atténuer. Et je suis de ceux-là qui croient que la maladie est en train de baisser. Ça signifie qu'elle va basculer dans les pathologies ordinaires. Qu'elles ne vont prendre en charge, maintenant comme toutes les autres pathologies.
Et cela, on la compare même à la grippe.
Oui, elle sera comme cela. Mais maintenant, ma question, et c'est là ma grosse crainte, nous n'avons jusque-là pas pris suffisamment de recul pour nous dire si nous voulons ramener la COVID-19 parmi les maladies ordinaires, ça signifie notre système de santé d'être capable de relayer tout ce que nous faisons vaille. Je ne prends plus que les cas des laboratoires COVID qu'il y a dans la ville ici. J'étais quelque part dans la ville de Kinshasa et j'ai vu un autre laboratoire qu'on est en train de monter. C'est des dysfonctionnements tout ça. Nos hôpitaux, les petits hôpitaux, on peut les appeler comme ça, des Kingasani, des Oshoué et tout, doivent déjà avoir des équipements, les personnes, les personnels formés et commencer à faire ces tests-là dans la routine hospitalière. C'est ce que ça veut dire. Mais si c'est encore des discours, où les gens se disent, oui, que ça passe seulement, que ça bascule là-bas. Il n'y a plus de cas, mais c'est dangereux et irresponsable.
Pasteur Naimi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Didjoui au sud Kivu.
Alexandre Zaza, depuis le territoire d'Idjoui au sud Kivu, cette série de mesures que le gouvernement vient de prendre sont salutaires. Oui. Les services de santé, entre autres la surveillance, les acteurs sociaux, les autorités politico-administratives, les équipes de riposte doivent également rester. Dans l'optique que nous sommes dans la phase peut-être de latence, la population doit rester observante des mesures barrières. Tout ceci veut dire que le gouvernement ne doit pas croiser les bras et continuer à renforcer les mesures qui sont, entre autres, le lavage des mains, le port des masques et l'utilisation du gel hydroalcoolique ainsi que la distanciation sociale.
Pasteur Naimi, que pensez-vous du point de vue d'Alexandre qui nous a appelé depuis Idjoui au sud Kivu?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais je le répète tel que je l'avais dit précédemment, que nous ne devons pas laisser la tâche seule au gouvernement. Le gouvernement seul ne saura pas prendre des dispositions pour lutter efficacement contre une autre résurgence de cette maladie pandémie. Mais c'est dans la société, dans la population, déjà à la maison, chaque parent doit prendre les responsabilités pour insister auprès des enfants, écoutez, vous voulez aller à l'école, voici votre masque, portez-le correctement, et aussi respectez toutes les mesures barrières. Au quartier, partout, à l'église, dans les coins de rue, au marché, dans les parkings, dans les carrefours, nous devons tous nous mobiliser, tous tous les liens d'opinion afin que nous puissions réussir à cela. Et toute la population, toute la communauté doit savoir que nous avons besoin de continuer à lutter contre cette pandémie.
Alors, Pasteur Néhémie, certaines ONG disent par exemple ne pas être associées par les gouvernements dans les campagnes de sensibilisation. Il faut des moyens pour ça. Ces ONG ont-elles raison ou tort?
Bon, une ONG doit devoir fonctionner avec ses propres moyens. C'est vrai que les apports peuvent venir. Mais en tant qu'ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Vous voyez, déjà nous sommes partenaires de l'État en tant qu'ONG. Et lorsque nous travaillons, nous devons avoir un plan d'action. Et dès que la pandémie a commencé, en principe, les différentes ONG qui œuvrent dans notre pays devaient aussi chacune avoir un plan d'action par rapport à cette pandémie. Et elles pouvaient aussi solliciter, mais pas seulement attendre que le gouvernement vienne vers eux, mais elles-mêmes pouvaient aussi solliciter auprès des autorités, voici notre plan d'action, et nous avons besoin de tel ou tel autre montant. Mais aussi, il y a certaines stratégies qui ne demandent pas toujours de haut financement, de gros financement, mais en tant que ONG, ils peuvent se mobiliser avec peu de moyens pour faire quelque chose. Donc,
quelle stratégie, par exemple, Pasteur Néhémie,
ne peuvent pas aussi être financés pour une activité.
Alors, vous parlez des stratégies, lesquelles, par exemple, qui ne demandent pas d'être financées, parce que lorsqu'on va sensibiliser, on vise un grand nombre des gens qu'il faudrait sensibiliser.
Oui, nous, je peux prendre notre exemple à Zabé ici. Nous avons vu des structures parmi lesquelles les nôtres qui sont allées dans des villages avoisinants. Ils ont payé à peine 500 francs ou 1000 francs de transport. Ils sont partis et on a réuni les gens autour du chef de village. Vous voyez, le village, donc, tout le monde vient. On a sensibilisé. On a distribué quelques masques qu'on a cousus avec des pagnes et ça a aidé la population. Donc, vous voyez, tout ça, il y a certains moyens, tels que je l'ai dit là, ce sont des stratégies qui sont à moindre coût. Donc, avec nos propres cotisations, on a pu faire quelque chose. Pour nous, ça n'a pas coûté beaucoup d'argent, mais ça a beaucoup aidé cette population. Mais pour de grandes sensibilisations, c'est vrai, l'auditeur a raison, qu'il faut aussi de gros moyens.
On va lire quelques réactions des auditeurs avant d'entamer la partie conclusion. Jacques Befunga, Malo Malo, les décisions portant allègement des mesures de lutte contre la COVID-19 en RDC sont bonnes au regard de l'évolution de la situation de cette pandémie dans notre pays. En outre, ces mesures pèsent beaucoup sur la vie des gens et de la communauté. Par ailleurs, peu importe le nombre des cas de contamination ou diminution des cas, il est nécessaire d'apprendre comment vivre avec ce virus et c'est l'effort de chacun qui compte pour y arriver. Ainsi, pour sa part, le gouvernement doit renforcer la sensibilisation pour convaincre la population observée consciencieusement les recommandations édictées par l'OMS pour se protéger et protéger les autres, car en tout état de cause, la santé est une affaire individuelle avant d'être une affaire publique. Xavier Safeli, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Parmi les décisions prises par le gouvernement, l'occurrence, le couvre-feu n'a nullement servi durant une année, car c'était une mesure dévastatrice qui a fait payer à la population congolaise un très lourd tribut via les tracasseries gravissimes des agents de l'ordre et la levée du couvre-feu n'est que justice. Cependant, la levée de certaines autres mesures, à l'instar des tests COVID pour les voyageurs complètement vaccinés, c'est extrêmement dangereux car la vraie lutte lucide de la COVID-19 doit être absolument drastique aux frontières, quelle que soit la situation de la maladie. Et enfin, Dr Dan Bomboko, il y a Marie-Madeleine qui nous écrit depuis le bas où elle est. Elle dit ceci: je suis dans le bas où elle est, on parle de la vaccination, mais ici chez nous, on ne connaît pas les sites où il faut aller se faire vacciner.
Bon, pour madame, au niveau des bas où elle est, je dirais de manière standard, hein, les sites de vaccination se trouvent dans les hôpitaux généraux de référence. Donc, je suis à peu près sûr que si madame se rend dans les hôpitaux généraux de référence de sa localité, il trouvera des sites de vaccination. Mais il peut aussi entrer en contact avec la DPS de la province pour avoir cette information.
Est-ce que vous confirmez que toutes les provinces de la RDC aujourd'hui ont déjà reçu les vaccins pour la vaccination?
Pas toutes les provinces, puisque les plans d'approvisionnement s'est fait progressivement, les axes aussi d'approvisionnement s'y diffèrent par rapport aux provinces. Donc il y a des provinces qui ont été priorisées puisque la prévalence était beaucoup plus importante, mais là nous tendons vers une couverture de la quasi-totalité du territoire national.
D'ici combien de mois?
En tout cas, les efforts sont en train d'être fournis dans ce sens-là pour qu'on y arrive le plus rapidement possible.
Vous invitez donc la population à respecter les mesures barrières et à se faire vacciner pour ceux qui le peuvent.
Oui, tout à fait, puisque comme je l'avais dit, la situation est certes satisfaisante, mais reste quand même assez fragile. Donc nous avons besoin de continuer à être prudents et surtout à aller doucement avec... et non pas prendre une euphorie, hein. Je pense surtout aux restaurants ou aux boîtes de nuit qui sont aujourd'hui autorisés à rester beaucoup plus tard que d'habitude. Il faut quand même être assez responsable pour les personnes qui ont en charge la gestion de cette activité, les restaurants et autres, quand même, de pouvoir être responsable et aller progressivement pour que nous puissions pas revivre ce que nous avions vu dans les temps passés et que nous puissions dérégler un peu la dynamique que nous avons pris jusqu'ici en continuant à baisser la transmission au niveau du pays.
Merci docteur Dan Bomboko, conseiller médical du ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. On va considérer cela comme votre conclusion. Docteur Baté Njoloko, député national élu des Pangui-Maniema, vous êtes ancien directeur général de lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Vous avez été impliqué dans la gestion de plusieurs épidémies en RDC, notamment Ebola. Votre mot de la fin.
Mon mot de la fin, d'abord, c'est que, madame, je suis en train de penser les dégâts financiers que cette épidémie a engendré pour la population du territoire des Pangui, particulièrement ceux-là qui se font payer les tests de COVID à l'aérodrome de Kama et de Kalima sans avoir été testés, puisqu'il n'y a pas de tests. Je leur demande d'avoir le papier. Et ça, c'est inacceptable. Le deuxième mot de la fin pour moi, je demande vraiment, non seulement comme homme politique, mais aussi technicien, qu'on dépolitise la lutte contre cette pandémie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les commandants des opérations de la lutte contre toutes les maladies dans tous les pays, c'est le ministre de la Santé, qui lui doit rendre compte au Premier ministre et au chef de l'État. Qu'on ramène, qu'on nous donne tous les instruments de la lutte, qui s'en approprie et qui les exerce. Et cela, pourquoi? Puisqu'il faut que l'opinion comprenne. La seule personne qui peut donner une injection à la division professionnelle de la santé n'est que le ministre national. La seule personne qui peut donner l'injonction dans la lutte de n'importe quelle maladie au médecin chef de zone n'est que le chef de division de la santé de sa province. Et voilà qu'on a dépouillé ces gens-là de leurs attributions pour des raisons que nous ne connaissons pas. Ça va nous amener à ce que nous avons ramené, que nous avons pu nous battre comme travail dans ces pays pour ramener la lutte contre le sida dans les systèmes de santé. Puisque c'était aussi comme ça. Le sida arrive, c'est tout le monde qui est dessus, plus il y a l'argent, plus il y a l'influence. Qu'on dépolitise la lutte contre la Covid, et je pense que les Congolais va beaucoup y gagner et il y gagnera.
Merci, docteur Njoloko. Pasteur Néhémie Nkoussou, membre de la Société civile Santé du Congo central, en tant que leader d'opinion, quel message vous lancez à la population congolaise qui vous suit en ce moment?
Merci. Le message que je lance à la population congolaise qui nous suit maintenant, c'est que c'est vrai, les mesures ont été allégées, mais ce n'est pas encore la fin de la pandémie. La COVID-19 est encore là et tout cela dépendra de notre comportement au quotidien. Il faudrait que nous puissions tous nous lever et que nous prenions conscience pour que nous puissions respecter à la lettre les différentes mesures barrières édictées pour que nous puissions bouter dehors cette pandémie qui n'a pas endeuillé la population, qui a décimé même des familles entières.
Merci, pasteur Néhémie Nkoussou. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Mathé qui l'a réalisé. Dieudonné Nyangasa a été à la mise en onde. Merci Adonai Madimba qui nous a aidé à préparer cette émission, ainsi que Martin Sebujangwe qui non seulement nous aide à préparer l'émission mais à superviser ce programme. À la présentation, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.